Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h sur Europe 1.
On a entendu les cris d'une jeune femme, elle était grièvement blessée. C'est un lieu tellement emblématique, je pense qu'il n'a pas été choisi par hasard.
La peur de retour hier dans le 11e arrondissement de Paris après une attaque à l'arme blanche devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo qui a fait deux blessés graves.
Deux blessés graves, un suspect qui a avoué, 6 autres en garde à vue, du terrorisme islamiste selon le ministre de l'Intérieur. On fera le point.
Le nombre d'avortements flambe cette année en France, nous en verrons les différentes raisons.
Et puis des vendanges originales dans le Pas-de-Calais, les vignes poussent au pied des terrils, ces collines de résidus d'acier.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Un suspect toujours entendu après l'attaque à l'arme blanche hier dans les anciens bureaux de Charlie Hebdo.
Un homme pakistanais qui dit avoir 18 ans. Il y a également 6 autres personnes gardées à vue. 5 qui vivaient dans l'appartement de l'assaillant à Pantin. Et un homme vu près de lui quelques minutes avant l'attaque. Qualifié de terroriste islamiste par Gérald Darmanin. Guillaume Bier, dans cette rue qui a déjà connu l'enfer, tout est allé très vite hier.
Les victimes profitaient d'une pause cigarette entre deux averses, juste à côté d'une plaque commémorative de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est là qu'un homme seul les a attaqués à l'arme blanche, avec une feuille de boucher, une attaque rapide, soudaine et sanglante. Au pied de l'immeuble, les 2 salariés de la société de production Première Ligne, un homme et une femme, sont sérieusement blessés. En prenant la fuite, l'assaillant abandonne son arme dans la rue. Son signalement est aussitôt transmis à tous les services de police qui ne tardent pas à le retrouver, à 900 mètres de là, devant l'Opéra, place de la Bastille. Le principal suspect est arrêté, il porte des traces de sang et il reconnaît dès son interpellation qu'il est bien l'auteur de l'attaque. Grâce aux images de caméras de surveillance du métro, les policiers découvrent que cet homme de 18 ans, né au Pakistan, est arrivé accompagné d'un autre homme qui n'a pas participé à l'agression. Pour éclaircir les éventuels liens entre eux, les enquêteurs ont tout de même arrêté ce deuxième suspect, âgé de 23 ans et né en Algérie. Ni l'un ni l'autre ne sont connus des services de renseignement.
Et Gérald Darmanin, qui a reconnu hier que ses services avaient sous-évalué la menace dans la rue où a eu lieu l'attaque, aucune surveillance particulière n'était en place, malgré l'ouverture il y a 3 semaines du procès des attentats de janvier 2015.
En tout cas, pour les habitants de ce quartier, le traumatisme est toujours vivace.
Comme si les habitants, les commerçants avaient fait un bond en arrière de 5 ans. Journée traumatisante aussi pour les enfants. Hier, ils ont été confinés dans leur classe, des écoliers qui, depuis plusieurs années, ont appris à vivre la menace terroriste, puisqu'à l'école, on les prépare régulièrement. Reportage d'Élise Dangean dans le 11e arrondissement.
Se cacher sous les tables, fermer les portes à clé, bloquer les portes avec des tables et fermer les rideaux.
À seulement 12 ans, Lucie connaît le protocole par cœur en cas d'intrusion dans son établissement. Et pour cause, depuis la primaire, dit-elle, elle a fait de nombreux exercices de simulation. Et c'est très rassurant pour Didier, son papa.
Ils connaissent toutes les techniques. Maintenant, depuis l'école, c'est ancré pour se cacher dans l'école, sous les chaises. Ils ont répété tout ça. Donc c'est vrai que c'est leur génération, malheureusement, a plus appris que nous à vivre avec ça.
Et selon Amélie, étudiante dans un lycée du 11e arrondissement, il y a depuis quelques années une vraie prise de conscience.
Je crois qu'en tout, on en fait à chaque fois deux exercices par an. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus important et que les gens le prennent beaucoup plus au sérieux.
Alors hier, le protocole appliqué était restreint. Il consistait principalement à confiner les élèves au sein de l'établissement. Mais certaines écoles primaires ont tout de même tenu à les réunir dans une seule et même pièce avant de les laisser sortir au compte-gouttes, classe par classe.
8h04, l'autre grand titre de l'actualité, Lénaïque, ce sont ces mesures anti-Covid qui s'apprêtent à entrer en vigueur.
Plus ou moins bien accueillis par la population, hier, déplacement chaotique pour Olivier Véran à Marseille, où il a tenté d'expliquer les raisons de la fermeture des bars et restaurants, reportée de 24 heures, alors que Jean Castex avait lui promis d'être le Premier ministre de la concertation avec les régions. Un vœu pieux, finalement, Jean-Rémy Baudeau.
On ne sait pas de quoi demain sera fait. Dans les couloirs de l'Élysée, la prudence domine. Évidemment, des conseillers au président, tout le monde observe les courbes, les projections, mais plus personne ne se risque à un pronostic. Si la situation venait à se dégrader, l'idée de reconfinement locaux est sur la table. Mais plus ça va, moins l'exécutif semble disposé à laisser la main au territoire. Jean Castex avait fait du dialogue avec les maires sa marque de fabrique. Pourtant, jeudi soir à la télévision, il expliquait « Quand il y a des mesures impopulaires, il vaut mieux que ce soit l'État qui assume ». Un conseiller gouvernemental décrypte. Le couple maire-préfet, ça ne fonctionne pas. Le sanitaire, c'est l'État central. Fin de citation. Sauf que ce changement de stratégie n'est pas sans conséquence. Le bras de fer avec les élus marseillais installe un match qui inquiète au sommet de l'État. Il n'y a plus d'union sacrée politique face au virus, s'émeut un membre de cabinet. Les restaurateurs qui accusent l'État de les fragiliser, ils se trompent de cible, s'alarme un autre. Au même titre que l'épidémie elle-même, la réaction dans les villes est désormais observée de près à l'Élysée. Un responsable se désole. Il ne faut pas oublier que notre seul sujet, c'est de sauver des vies.
Jean-Rémy Baudot, cette année, le nombre d'avortements, les naïcs a atteint un niveau record en 30 ans.
En grande partie à cause d'un défaut de prévention, d'où l'intérêt d'une journée internationale de la contraception comme celle d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres facteurs que nous explique Ève Roger.
Pour certains, ce record est une bonne nouvelle. S'il y a beaucoup d'IVG en France, c'est qu'on peut y avorter sans trop de difficultés, même si c'est plus ou moins facile en fonction des régions. Mais d'autres voient l'autre face de la médaille. Si la courbe est à la hausse, c'est que le recours à la contraception se dégrade, en particulier chez les femmes les plus précaires, les chiffres l'attestent. Et puis, il y a aussi une tendance marquée chez les jeunes femmes d'aujourd'hui. La défiance vis-à-vis de la contraception hormonale, pilule ou stérilet, explique Philippe de Ruel, secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens.
Tous les jours, il y a une vraie défiance vis-à-vis de l'idée d'avoir un corps étranger dans son utérus, de l'idée de prendre des hormones, ces moyens de contraception. C'est vrai, ne sont pas parfaits, c'est vrai, peuvent avoir des effets secondaires, mais évitent d'avoir des bébés qui ne sont pas désirés et évitent des interruptions volontaires de grossesse.
Résultat, ces jeunes femmes privilégient le préservatif ou les méthodes naturelles, beaucoup moins efficaces en termes de contraception.
Voilà donc pour ces explications. 8h06, vous restez avec nous dans un instant. Hommage à Jacques Chirac, disparu il y a tout juste un an. À tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et à 8h08, la suite du journal de Lénaïque Monnier. Je vous rappelle qu'Alain Juppé sera mon invité d'ici quelques minutes pour évoquer la disparition de Jacques Chirac il y a un an.
Mais déjà, hier, des hommages lui ont été rendus au cimetière du Montparnasse où il repose, des politiques, des anonymes. Reportage de Caroline Baudry.
On a eu le bonheur à votre âge d'avoir cette rencontre avec un homme d'exception.
L'émotion de Christian Jacob, président des Républicains, près de la tombe de son ami et mentor. Il s'adresse à des jeunes du parti conviés à cet hommage à la transmission politique.
Jacques Chirac avait cette capacité à rassembler. On l'a tous vu passer un coup de fil avec Bush pour parler ensuite à un paysan de Corrèze. Et tout ça, c'est Chirac.
Avec d'autres fidèles chiraciens comme François Baroin, il a déposé sur la tombe une gerbe de fleurs au milieu des ornements déjà installés. Le temps passe, ton souvenir reste, peut-on lire sur un cœur sculpté, des objets en forme de pomme, symbole de sa campagne en 1995. Debout, silencieux, Jérôme, un breton de passage à Paris, tenait à se recueillir ici.
C'est un peu émouvant et je trouve que c'est à l'image de son personnage. Je pense que M. Chirac, c'était une personnalité très forte. Surtout, je pense que c'est le dernier président qui a été réellement aimé par son peuple.
Malgré la pluie, des passants prennent la tombe en photo, les livreurs y déposent des bouquets. C'est la première fois qu'elle est aussi fleurie, confie un employé du cimetière venu sur sa pause observer la tombe de Jacques Chirac.
Et donc Alain Juppé, d'ici quelques minutes pour son livre Mon Chirac chez Talendier. Le géant américain Amazon est-il une menace pour le commerce de proximité ?
L'arrivée d'Amazon divise dans le Finistère. Les élus sont pour, mais les petits commerçants s'inquiètent. Certes, il y a de la création d'emplois, mais quid des petits commerces ? C'est la crainte des opposants qui manifestent à Briec, près de Quimper cet après-midi. Reportage de Charles Guyard.
J'ai hérité de quelque chose qu'on pourrait appeler un cadeau empoisonné.
Ce cadeau empoisonné pour Isabelle Assy mesure près de 10 000 mètres carrés et porte un nom, c'est Amazon, qui a choisi la communauté de communes de Quimper pour y établir l'un de ses entrepôts. Une situation que la nouvelle maire a donc découvert au printemps à sa prise de fonction et l'élu s'est retrouvé comme dans un dilemme.
Si j'avais été en situation vraiment de décider, j'aurais préféré un autre projet pour ce terrain-là, en accord avec les valeurs que j'ai défendues pendant la campagne électorale.
Seulement voilà, sa campagne, Isabelle Assy l'a aussi axée sur la démocratie participative. Du coup, lorsqu'elle a soumis ce projet à un nouveau vote jeudi, une courte majorité l'a validé. Il faut dire que la plateforme assurera plus de 500 000 euros de rentrée fiscale par an et emploiera 80 personnes en CDI à temps plein. Des arguments qui ne font pas le poids face au risque de voir s'éteindre le commerce de proximité. C'est la crainte du collectif Stop Amazon, Pierre Crampon.
Elle a beaucoup moins de frais que le commerce local et à ce titre, la concurrence est déloyale. Pour l'instant, le boulanger de Quimper n'est pas en concurrence, mais il faut savoir que Amazon est une entreprise monopolistique qui petit à petit va s'étendre sur tous les secteurs d'activité, y compris l'alimentaire.
Et le collectif appelle à manifester ce samedi après-midi à Briec, la commune dans laquelle doit être construit à partir de 2021 l'entrepôt Amazon. Quimper, Charles Guyard, Europe 1.
Allez, on change de région de France. On connaissait le chardonnay. Voici la récolte du charbonnet.
Oui, on l'appelle ainsi parce que le raisin est récolté au pied des terrils du Pas-de-Calais, ces collines issues des résidus miniers. Et c'est Maximilien Carlier qui a fait les vendanges pour Europe 1.
Pour accéder aux vignes, il faut emprunter un petit sentier et zigzaguer sur le flanc du terril. 80% dénivelé, une pente très raide. Lauriane, chaussures de randonnée, sécateur dans la main, première vendange.
Ça se mérite d'aller sur les vignes du terril d'Aïcourt. C'est pas simple de monter. Un peu essoufflé. Alors avec le masque, ça va peut-être être un petit peu la contrainte, mais bon. On a le droit de respirer.
Respirer à 100 mètres de haut et vendanger, c'est la 8e récolte cette année, un peu réduite à cause du confinement. Olivier Pussec, vigneron.
On ne progresse pas parce qu'il y a eu pendant 2 mois, en tout cas au moins, une absence totale de passage dans la vigne. Et la vigne, comme toutes les plantes, elle demande à être soignée, entretenue toutes les semaines.
Seul point positif pour Henri Jamais, autre vigneron, c'est l'ensoleillement exceptionnel dans le Pas-de-Calais, plus une année assez sèche. Résultat.
C'est joli, c'est doré. Alors là, je crois que les pépins, parce que ça me permet de savoir s'ils sont bien mûrs. Le jus est sucré, donc ça nous permettra certainement d'avoir un vin autour de 12 degrés, mais pas 14, et c'est bien. C'est à faire rêver des viticulteurs du Bordelais ou du Midi.
Le Charbonnet Cuvée 2020 à déguster l'année prochaine, prix de la bouteille de ce vin ch'ti autour de 50 euros. Aïcourt, Maximilien Carlier, Europe 1.
50 euros quand même.
Oui, c'est une petite somme quand même.
C'est ça. Hein.
On espère qu'il est bon.
Oui,
hein.
Oui, bah voilà.
Le foot dans le Nord, pas très loin ce coup-ci. Lille qui a pris la tête du championnat et pris une victoire 2-0 face à Nantes. Aujourd'hui, c'est Saint-Etienne le deuxième contre Rennes le troisième et Marseille face à Metz. Et puis un mot de boxe avec ce retour gagnant de Tony Yoka. Il était absent des rings depuis un an. Il a battu un autre Français, Joanne Duopa, dès le premier round.
Merci, c'était le journal de Lénaïque Meunier.